Allô, Bras Zéro ?
Oui, j'écoute.
C'est quoi le thème de l'émission aujourd'hui ? C'est le carnaval de Marseille ? Parce que c'était ce week-end, non ? Ça s'est bien passé ?
Oui, ça s'est très bien passé, mais c'est pas du tout le sujet du jour, en fait. Ce soir, c'est Bras Zéro Frontières.
Ah oui, c'est vrai. Du coup, on parlera de X-Files aux frontières du réel.
Non, pas tout à fait non plus. En fait, au programme, on a plutôt des histoires de passage de frontières, des témoignages, des histoires de frontières entre les corps et entre les pays. Enfin bon, bref, il y aura des sons, de la musique, des histoires, des témoignages.
Sans oublier le célèbre conte de Bras Zéro. Et est-ce que c'est Bras Zéro à l'arrache ?
Non, c'est Bras Arrache.
Ah d'accord. Bonne émission.
Bonne émission.
De l'air, Bras Zéro Frontières. De l'air, Bras Zéro Frontières.
Je suis en France depuis 7 ans et demi maintenant. Je suis venu pour poursuivre mes études dans le cadre du master, master 1, master 2. Et puis, je suis continué en thèse à l'Université de Toulouse, Mireille Jean Jaurès. Avant ça, j'étais en Colombie, je suis colombien. Et j'ai fait toute ma carrière en Colombie. J'ai travaillé avant de venir ici. Je suis arrêté, j'ai repris mes études en France.
C'est quoi le quotidien d'un étudiant, une étudiante étrangère ?
Bah, ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on doit faire une démarche auprès de Campus France, qui est un organisme du ministère des Affaires étrangères partout dans le monde. Et normalement, on doit postuler si on veut suivre soit un master, soit un doctorat, on postule directement au programme. Mais il y a beaucoup de cas où les gens viennent, en particulier par exemple à Toulouse, il y a une unité de langue où les gens viennent pour faire étudier le français. Donc ils arrivent pour faire un an, deux ans de français, mais ils sont pas des bourses pour une grosse partie des gens, donc ils doivent pour beaucoup travailler à côté. Donc il y a beaucoup de l'aide. Dans les réseaux des gens, à travers des amis, d'amis, parce qu'effectivement, les gens arrivent et ils n'ont pas de moyens, tout simplement. C'est assez compliqué parce que tu arrives avec ton passeport et tu as une sorte de tampon sur ton passeport, mais tu n'as pas encore le visa. Et pour toute la démarche administrative, notamment et sécurité sociale, santé, etc. Là, pour avoir la carte assurance maladie, ça te prend minimum beaucoup plus de 6 mois, de 7 mois, pour beaucoup de cas. Donc, disons que le quotidien, c'est pas facile. Et pour certains cas des amis ou d'amis qui sont arrivés très récemment, et je sens que ça c'est un pire de plus en plus, puisque tu n'as pas certains droits qu'à un moment donné, quand je suis arrivé il y a 7 ans, ils existaient encore. Et notamment, il y a moins de remboursements sur la et à la CAF ou d'autres types de situations. Comme ça que normalement c'était avantageux pour en étant étudiant. Mais là, tu sens que ça diminue doucement, mais ça diminue quand même.
Mieux accueillir les étudiants étrangers, c'est donc le premier pilier de notre stratégie. Le second consiste à instaurer une forme d'équité financière. Actuellement, la France est l'un des pays au monde où les droits d'inscription des étudiants internationaux sont les plus faibles. C'est presque comme s'ils n'existaient pas. En bref, un étudiant étranger issu d'une famille fortunée qui vit en France paye le même montant qu'un étudiant français peu fortuné dont les parents résident, travaillent et payent des impôts en France depuis des années. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est absurde, et je crois même qu'il y a là quelque chose qui est injuste. Et je pense surtout que ce choix a comme conséquence la faiblesse des moyens disponibles pour accueillir et pour accompagner les étudiants internationaux. Nous avons donc décidé que les étudiants internationaux qui ne résident pas dans l'espace économique européen, paieront des frais d'inscription correspondant approximativement au tiers du coût réel de leur formation. C'est un choix fort, c'est un choix de solidarité et d'ouverture qui nous permettra de mieux accueillir les étudiants qui choisissent la France.
On n'est pas dupes, pour beaucoup d'entre nous, nous travaillons à côté de nos études. Donc même si on parle d'une quasi-gratuité des études en France, il y a un coût de la vie qui reste très cher et qu'avec ces coûts-là, ce ne serait pas possible tout simplement.
C'est-à-dire que tu payes combien jusqu'à maintenant et là, ça passerait à combien ?
Pour une année en doctorat, c'est entre 400 et 500 euros. Et là, ça monterait à 4 700. Donc, on a fait les calculs, c'était... Je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, c'est environ 2000%. C'est hallucinant. Ce qui reste assez flou, c'est que c'était une annonce du Premier ministre, mais qui n'a pas encore été discutée à l'Assemblée générale et à l'Assemblée nationale, ni dans d'autres types d'instances, sauf que sur le site de Campus France officiel, il apparaît déjà les chiffres annoncés par le Premier ministre.
Il y a eu des universités qui ont décidé de ne pas augmenter, de s'engager à ne pas augmenter les frais d'inscription, notamment au Mirail. Qu'est-ce que tu penses de cette optique-là ?
Disons que toute annonce dans ce sens peut être... bien vu. Après, l'histoire, c'est que tu ne crois pas jusqu'à quel point ces universités-là puissent être indépendantes par rapport aux décisions du gouvernement. S'il y a une politique derrière qui encadre tous les systèmes universitaires, un conseil général, un conseil président ou un conseil administratif d'une université peut être dit... Et divisé ou dissolu, comme on a vu il y a quelques mois ici à Toulouse, très facilement. Et je ne vois pas à ces organes établir des rapports de force avec le gouvernement. Je ne les vois pas vraiment. Je crois que c'est une annonce assez facile à faire, finalement. Et oui, certes, on les prend, parce que ça va dans un objectif à court terme, mais que dans le long terme, c'est plus une annonce qu'une réalité.
Et oui, l'annonce est devenue réalité, puisqu'il y a un décret qui est passé pour l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes étrangères dans la droite file de la loi ORE, orientation réussite étudiante. Et alors, il y a des bouts qui ne sont pas passés pour les doctorants, doctorantes, mais ça passe pour les autres, etc. C'est voilà, une première augmentation. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas reculé, même si à gauche, à droite, il y a des mouvements et des assemblées qui se font contre tout ça.
S'il vous plaît, pour Moi, je m'appelle Camille. J'ai 9 ans et demi, presque 10 ans. J'ai déjà traversé des frontières. Entre, par exemple, la France et l'Espagne. Mais j'ai pas beaucoup voyagé, à vrai dire. À chaque fois que j'ai voyagé, je suis plutôt allée, au Maroc pour voir ma mamie et comment va le reste de ma famille. Et voilà. Ben, pour moi, une frontière, c'est un peu un lieu, un panneau ou une ligne qui sépare deux territoires. Et les frontières, c'est pour délimiter un espace. Par exemple, entre la France et l'Espagne, c'est tout simplement un panneau là où il y a marqué Espagna. Et à partir de ce moment, tu sais que tu rentres dans un autre pays, que ça va un peu changer, que tu mangeras pas le même plat, que tu parleras pas la même langue, enfin pas forcément, et que des fois ça, tu vas changer, les habitations vont changer. Par exemple, quand je suis passée, j'ai vu qu'il y avait un village qui était tout près de la frontière, qui était du côté de la France. Et un autre village, en fait, les deux villages étaient coupés. En fait, c'était un village entier. Et du coup, je me suis dit que comme ils sont vraiment très proches, je me suis dit qu'ils doivent manger un peu les deux plats et parler un peu les deux langues. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui traverse la frontière française, quand elle est en France, on ne demande rien, il n'y a pas de douane, il n'y aura pas de pas, enfin, ils demanderont les passeports, mais ils vont pas vous embêter. Alors que, par exemple, quand on arrive en bateau au Maroc, il y a une machine qui arrive et ils contrôlent un peu ta voiture, ils voient ce qu'il y a dans la voiture, et ça, par exemple, si tu vas en France, ils te demandent pas ça. Tu vois, par exemple, si c'est des Marocains, ils vont un peu plus se méfier. Alors que si c'est des Français, ils vont un peu moins se méfier. Et tu vois, nous, par exemple, on n'a pas le droit de transporter du romarin du Maroc en Espagne, nous, du coup, on s'est dit que comme on avait vraiment envie de le prendre, on l'a caché sous un tissu. Et quand on est allé en Espagne, on s'est dit, ils vont pas fouiller notre voiture parce qu'on est des Français et tout ça, alors que tous les Marocains qui étaient à côté, ils fouillaient leur voiture. Et alors que nous, il y a un monsieur, il est venu et avec son chien, il a ouvert le coffre. Mais comme le chien, il a été éduqué pour la drogue et non pour le romarin, il avait pas vérifié sous le tissu, du coup, on est parti tranquille.
Traité de Verdun. L'empire carolingien est partagé entre les trois fils de Charlemagne. Les trois territoires couvrent l'actuelle France et une grande partie de l'Allemagne.
De 711 à 1492, les frontières entre le monde musulman et le monde chrétien se situent en partie autour des Pyrénées. L'actuelle Espagne faisant alors partie d'Al-Andalus, une province dominée par les empires arabes et berbères.
1494, le traité de Tordesillas partage le Nouveau Monde entre les Espagnols et les Portugais. Il s'agit de l'Amérique du Sud.
1885. Cette année-là, 14 pays occidentaux découpent l'Afrique en territoires coloniaux. Ces frontières, établies par les Européens, restent au moment des indépendances.
Je passe souvent en fait la frontière d'Espagne et la France. Et du coup, avant, j'avais pas trop des problèmes. Une fois, ça m'arrivait en fait un problème avec les flics, parce qu'ils nous sont arrêtés juste avant la frontière de la France. Et du coup, ils nous ont fait descendre en fait à 4 personnes, les 4 qui avaient quand même un visage étranger, plutôt arabe ou de l'Amérique latine, pour nous contrôler, pour nous demander la pièce d'identité, pour nous contrôler nos bagages aussi avec les chiens. au cas où on avait de la drogue. Et du coup, c'était seulement nous quatre. Ils sont venus direct à nous. Et je pense que c'est plutôt par rapport au physique. Et non, et ensuite, c'était ça. Et surtout, ouais, les contrôles, par exemple, dans les bus, que je prends beaucoup l'écart. Avant, par exemple, je voyais qu'il n'y avait pas de contrôle, trop de contrôle en fait de police de frontières. Et maintenant, par exemple, les dernières fois que j'ai voyagé, les derniers mois, ils nous ont fait contrôler. Par exemple, la dernière fois, c'était trois fois, deux fois en Espagne et une fois en France. Du coup, ça a quand même beaucoup augmenté en fait le contrôle des polices dans les cars, au moins.
Donc, c'est la première fois que je suis venue en Europe. J'ai pris une attestation d'hébergement en France, mais l'attestation n'a pas eu le temps d'arriver chez moi, et donc j'avais que la photocopie. Mais au moment où je travaillais au Brésil, donc j'avais comme les documents de mon travail, tout d'où j'habitais au Brésil, tous les trucs pour montrer que j'allais revenir là-bas. Et j'avais mon billet de retour, bien sûr. Mais quand je suis arrivée, les mecs, ils demandaient pas grand-chose aux personnes. Et il m'a regardé et il a commencé à demander tous mes papiers. Et du coup, il m'a demandé l'attestation d'hébergement. Je l'ai montré, j'ai dit que c'était la photocopie parce que ça n'a pas eu le temps d'arriver. Mais que j'avais le téléphone des personnes qui m'hébergeaient. Et qu'ils pouvaient appeler les personnes qui m'hébergeaient, que j'avais la copie de leur carte d'identité et tout ça. Et après, les mecs passaient une demi-heure en train de me poser des questions de qu'est-ce que je faisais dans la vie, pourquoi j'étais en Europe, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Je trouvais complètement bizarre parce que j'étais en train de venir, c'était juste une fois pour faire du tourisme, pour voir en fait mon ex qui était français. Normalement, j'avais tous les papiers pour rentrer et il n'avait pas de quoi faire autant de choses. Et après, il a passé une demi-heure en train de me casser les couilles. Et à la fin, il m'a laissé entrer, mais il a dit ouais, la prochaine fois, je te renvoie au Brésil et blablabla. Et je trouvais complètement abusé parce que les autres personnes qui étaient dans la queue, il n'a même pas demandé les papiers. Il a regardé les visas et les visas, non, les passeports qu'il n'avait pas besoin pour tout le monde de 3 mois, il n'a pas besoin de visa. Il a juste regardé les passeports et les laissé passer.
C'est quand j'étais en Serbie et que j'ai passé la frontière donc pour aller en Hongrie. Donc j'ai pris le bus, pas mal d'heures de trajet. Et donc, quand tu arrives proche de la frontière hongroise, tu repères en fait direct que tu es dans un autre pays que la Serbie. Et donc, tu vois qu'il y a énormément de barrières. Et donc, moi, j'ai dû passer deux checks, en fait. Donc, il y en a un premier où ils te font tous descendre du bus et ils fouillent le bus avec des chiens. Et donc, après, premier passage, donc tu montes ta carte d'identité. Mais ensuite, tu sens aussi que toi, en tant que citoyen européen, t'es beaucoup mieux loti que certains qui ont des passeports qui ne sont pas européens, donc beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus d'attentes, beaucoup plus de vérifications. Et donc ensuite, tu passes un deuxième passage, et là, en fait, c'est la même chanson. Donc tout le monde descend du bus, et à nouveau, il y a des contrôles.
Alors que j'ai vécu, oui, sans trop m'en rappeler toutefois, parce que j'étais encore très jeune, c'était mon propre passage de la frontière espagnole, du coup, quand j'arrivais du Maroc. J'ai quelques bribes, on va dire, de scènes dans la voiture, où au moment de descendre du bateau, on remonte dans les voitures, on m'a demandé de me cacher sous des draps avec ma sœur et mon cousin. Et du coup, je me rappelle juste que... Moi, je voyais ça un peu plus comme de l'amusement, c'est en mode on joue à cache-cache, quoi. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus tard, quelques années, ouais, c'est très récent, où voilà, j'en ai un peu reparlé avec ma mère, et ouais, elle nous a avoué que... Enfin, elle m'a rappelé qu'on était rentrés clandestinement.
T'avais quel âge ?
J'avais 3 ans. Je pense que voilà, avec un peu de recul, je me dis que les parents ont trouvé un peu stratagème pour nous faire croire un petit jeu de cache-cache, un truc comme ça, tu vois.
Et les douaniers n'ont rien vu.
Et les douaniers n'ont rien vu. Bon, je soupçonne mon grand-père d'avoir donné un petit billet, hein, comme il fait très habituellement à chaque fois qu'il va au Maroc. bakchich, quoi. Mais voilà, ouais. Enfin, ça se fait beaucoup. Peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup de filer un petit billet au douanier pour éviter de décharger le coffre, pour éviter de décharger l'armoire. Ah ben ouais, à la bléda.
C'est sur un vol Ouaga, donc sur Burkina, Paris. Je rentrais de Ouaga et je discutais avec une femme burkinabé à côté de moi dans l'avion. Et moi, je suis métis, mon père est martiniquais, ma mère est de métropole, la même blanche. Et j'expliquais en fait qu'au Burkina, je suis considéré comme un blanc, mais que 3-4 heures plus tard, en arrivant à Roissy ou Orly, je sais plus, j'allais être reconsidéré comme un noir. Et qu'en fait, le seul endroit sur Terre, du coup dans les airs, où je peux être un peu considéré comme quelqu'un de métis, c'est à cheval entre un continent noir et un continent blanc, à savoir dans l'avion, quoi. À la frontière, dans l'avion, à la frontière, quoi. Tu vois, au-dessus, ça devait être au-dessus du... Je sais même pas si on était au-dessus de l'Algérie, ouais. En tout cas, c'est que dans l'avion que ça se passait, et ça m'a très fort. Je me suis dit, mais putain, je quitte un pays où on dit que je suis blanc, alors que bon, je suis pas vraiment blanc, et j'arrive dans un pays où on dit que je suis noir, alors que je suis pas vraiment noir. Il y a que là, en fait, on me casse pas les pieds, quoi.
Dans les aéroports, c'est vrai que des fois, ils me font contrôler, que pour la barbe. Mon frère, par exemple, il me dit que quand il met les lunettes, en fait, il se fait moins contrôler, parce qu'il a l'air un peu, c'est pas, intellectuel, on dirait, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, j'essayais quelquefois et ça change un peu. Mais avec la barbe, c'est vrai que c'est un truc, en fait, où je me fais toujours contrôler dans les aéroports. Ou au moins, pas contrôler, mais il y a des regards un peu des flics. Un peu menaçant.
Bah, du coup, pour mieux passer les frontières, il faut acheter des lunettes.
Non, pas toujours. Mais ça cache un peu peut-être la barbe. Et du coup, ils disent, ah, il avait la barbe, mais il avait les lunettes quand même. Du coup, ça change. C'est pas mon frère qui m'a dit ça. C'est vrai qu'il l'a fait à chaque fois que je le vois passer les contrôles des aéroports, en fait, parce qu'avant, il le faisait un peu chier tout le temps aussi, comme à moi, parce qu'il a la barbe. Du coup, il me dit que des fois, il se fait moins chier. En fait, avec les lunettes.
C'est drôle, quand même. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver. Et nous, on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir, alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières.
Marseille, 10 mars 2019, début du carnaval de la Plaine.
Oui, alors mon déguisement c'est le mur de la Plaine. Voilà. Le mur de la Plaine, c'est un mur mythique qu'ils ont installé, le mur de la honte, pour protéger les travaux de la rénovation de la place, pour laquelle la plupart des gens n'étaient pas forcément d'accord. Et effectivement, c'est une sorte de révolte populaire. Et le carnaval est là aussi pour donner corps à tout ça, dans un exutoire festif et non violent.
Ce mur qui est autour de la Plaine, si c'était une frontière, ça serait entre quoi et quoi?
Entre des pressions oligarchiques de rénovation et de marché public corrompu et le reste du peuple qui est de l'autre côté, à la marge, derrière le mur. Voilà, on pourrait dire ça. Mais bon, la frontière, c'est plutôt la Canebière avec les quartiers sud et les quartiers nord. Mais tout le monde se calfeutre derrière des murs et des barbelés et des caméras de vidéosurveillance. Malheureusement, le mur est dans votre tête, messieurs, dames.
Centre de rétention administrative, une prison pour des personnes qui n'ont pas commis de crime ni de délit, pour des personnes dont l'administration a décidé qu'ils et elles étaient indésirables, les étrangers indésirables. C'est un étranger indésirable, c'est un être humain qui n'a pas le bon papier pour résider dans un périmètre délimité par une frontière. Quand l'État n'était pas la République, quand l'administration enfermait quelqu'un sans jugement, c'était une lettre de cachet. Des casseurs ont détruit la Bastille pour ça. La suite, on la connaît. Pendant la grande boucherie de 14-18, on commence à enfermer des ressortissants allemands, italiens, autrichiens. Des ennemis, quoi. Bon. En fait, des personnes qui, peut-être, pouvaient être ennemies parce qu'ils et elles étaient de la mauvaise nationalité. En 38, rebelote avec des Espagnols, mais aussi des Allemands. Et puis en 1964, tout un tas de Français des colonies deviennent étrangers du fait de l'indépendance du territoire où ils et elles sont nés. Alors, la préfecture des Bouches-du-Rhône achète un hangar à Arinque et colle discrètement des gens en attente d'expulsion. 10 ans après, 1974, le Pau-Oro sera découvert sans que cela change quelque chose. Heureusement, en 1981, la gauche arrive au pouvoir et légalise le premier centre de rétention administrative. Attention, hein, les gens ne sont pas détenus, non, non, ils sont retenus. De 1999 à 2014, le nombre des personnes retenues contre leur gré pour le seul fait d'être étrangère est passé de 14 000 à 45 000. En 15 ans, cela a été multiplié par 3. Depuis 2018, cette rétention peut durer jusqu'à 3 mois, le temps de trouver un moyen légal d'expulser la personne.
Et alors moi, avec un peu de retard, mais c'est pas grave, je me suis interrogée un peu sur le thème de frontières, pas frontières entre les pays, mais plutôt en lien avec la question du genre et de la différence que certains et certaines bâtissent entre hommes et femmes, les grandes catégories. Et donc il y en a pour qui une frontière semble même pas suffisante, puisqu'ils écrivent des bouquins où ils prétendent que les hommes viendraient d'une certaine planète et les femmes d'une autre. Bon, ça pourrait faire rire, le problème c'est que ces textes-là, ils ont un succès fou, ils sont adaptés au théâtre, ils sont traduits dans des centaines de langues, et du coup il y a des millions de personnes qui le lisent. Et Google se vante même que 92% de ses utilisateurs ont aimé ce livre. Bref, parmi les fidèles adeptes de ces théories-là, on trouve les cathos, qui en ont fait un petit reportage qu'on va écouter maintenant, des cathos. Qu'on va écouter maintenant et sera ajouté en fait dans ce petit montage la voix de Christine Delphi qui vient pas mal en réponse à ce que ces personnes disent. Et donc Christine Delphi, c'est un son qui vient d'une conférence qu'elle a fait au Québec en 2007. Je vous laisse déguster.
Ah, l'un triomphe depuis 6 ans. Une adaptation tout en humour du best-seller de John Gray sur la différence homme-femme. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus.
Donc nous avons le retour, si vous voulez, le retour de bâton, et un retour de bâton qui est particulièrement pervers, parce que ce retour de bâton, qu'est-ce qu'il installe? Il installe d'abord la primauté de la différence, de ce qu'on appelle en France la différence des sexes.
Moi je vois la différence comme une chance et pas comme un obstacle. C'est cette différence qui fait qu'on est attiré l'un à l'autre, l'un par l'autre, et c'est cette différence qui nous permet de grandir aussi chacun. C'est au contact de l'altérité que je peux devenir plus complet moi-même aussi. Donc, mais ça ne peut être fait qu'à partir du moment où cette différence est acceptée.
Je vous ai préparé le thé.
Je suis tout petit, mais je suis gentil. Alors ça, c'est une différence homme-femme, par exemple. Maureen nous a préparé le thé, c'est charmant. Mais moi, j'ai acheté des bières.
Récemment, je lisais un numéro d'un magazine français qui s'appelle Psychologie et qui disait, qui titrait « Ces différences qui provoquent le désir ». À la fin, il y avait quand même, il disait, c'est les différences entre les sexes qui provoquent le désir, il faut surtout qu'elles restent là. C'est assez curieux que les gens aient des angoisses là-dessus. Hein. Parce que c'est pas comme les feuilles d'érable, hein. C'est pas des trucs qui tombent tous les ans, hein. C'est pas comme les cornes des cerfs non plus, mais ils veulent quand même que c'est des incidences autres. Ils disent, faut pas qu'on se ressemble, etc. etc. Bon. Et la seule façon de ne pas se ressembler, apparemment pour eux, c'est d'être des hommes ou des femmes. Bon, c'est quand même terrible parce qu'apparemment, il n'y a que 2 individus sur Terre. Une femme et un homme, puisque c'est la seule différence qu'on voit. Donc il n'y a pas de différence entre les femmes, il n'y a pas de différence entre les hommes. Et alors, ils font tout ce dossier là-dessus qui fait quelque chose comme facilement 10 pages. Et puis à la fin, ils sont quand même obligés, parce qu'il y a eu un combat des gays et des lesbiennes, et le combat et des bi et des trans, Et ils sont obligés de reconnaître, enfin de mentionner quelque part, ils se sont dit, il faut qu'on case le désir homosexuel, il faut qu'on le mette, on peut pas, bon, on peut pas risquer un procès ou Dieu sait quoi. Et alors, ils mettent, oui, et puis alors il y a le désir homosexuel. Ah bon. Et alors ils l'admettent. Alors il n'est pas fondé sur la différence entre les sexes. C'est-à-dire ils mettent deux lignes qui démolissent absolument, entièrement, complètement, tout leur dossier, et ils ne s'en rendent pas compte.
Bon bah voilà, c'est pas compliqué quoi. La différence, c'est fait pour le désir, l'attirance. Ouais bah ouais, comme ça c'est plus simple de voir la vie. Bon bref, le truc c'est que tout ça, ça se cache derrière le masque de la biologie et de la génétique, alors que quand tu croises quelqu'un dans la rue, eh ben la biologie et la génétique te sautent pas vraiment aux yeux. Il y a un texte qui est paru en 2007 d'une femme trans qui s'appelle Julia Serrano sur le privilège cissexuel. Et elle parle du processus de genrement. Et donc ce processus, c'est un processus qui consiste à attribuer le genre féminin ou masculin à une personne de manière quasi immédiate. Et du coup, elle insiste sur le fait que c'est un processus actif, c'est-à-dire que on décide de retenir certains critères qui nous sautent aux yeux pour définir, tiens, cette personne est un homme ou cette personne est une femme. Elle dit aussi que ce processus, du coup, se base sur des caractères sexuels secondaires qui n'ont rien à voir avec la génétique. Et quand bien même ça aurait à voir avec la génétique, le problème, c'est que, enfin, le problème des théoriciens de la différence et de la frontière hermétique entre hommes et femmes, c'est qu'en fait, bien souvent, le sexe chromosomique d'une personne et son sexe assigné, celui qui est inscrit à l'état civil, ne correspondent pas. Et d'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus, c'est que lors des JO de 96 à Atlanta, il y a eu 8 athlètes femmes sur 3387 qui ont eu un résultat positif au test de matériel chromosomique Y. Donc elles avaient un Y dans leur chromosome. Ça ne correspondait pas au sexe qui leur était assigné. Depuis, les JO ont décidé de mettre fin aux tests génétiques de sexe parce que ça foutait trop le bordel. Bref, du coup, on peut en conclure que l'identité de genre n'est pas séparée entre hommes et femmes par une frontière hermétique. Et c'était déjà écrit en 1974 par Andrea Dworkin, qui écrit donc « La découverte est bien sûr que l'homme et la femme sont des fictions, des caricatures, des construits culturels. En tant que modèle, ils sont réducteurs, totalitaires, inadaptés au devenir humain. En tant que rôle, ils sont statiques, méprisants, pour les femmes, des impasses tant pour les hommes que pour les femmes. Nous sommes clairement une espèce multisexuée, dont la sexualité s'étale sur un vaste continuum, où les éléments appelés hommes et femmes sont imprécis. »
Ouvrez les frontières.
Fermez bras zéro.
Non, bras zéro frontières.
1916, la France et le Royaume-Uni se partagent le Moyen-Orient et fabriquent les frontières de la Syrie, de l'Irak, du Liban et de la Palestine.
1919, traité de Versailles. Indépendance de nouveaux États, donc nouvelles frontières, la Pologne et la Tchécoslovaquie. L'Allemagne perd 10% de son territoire. L'Alsace et la Lorraine redeviennent françaises.
1939, l'Allemagne annexe l'Autriche. Cela provoque la Seconde Guerre mondiale.
1945, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne est annulée. Les frontières bougent, certaines nations s'agrandissent, d'autres rétrécissent.
Eh ben, je m'appelle Zineb, donc j'arrive en France en 2001. En fait, au début, voilà, je suis venue par un visa étudiant. Voilà, donc c'était un peu la démerde au début pour trouver quelqu'un en France qui puisse se porter caution pour moi, pour que je puisse trouver un logement et tout ça. Donc c'était assez... J'ai eu pas mal de chance, en fait. Et puis, bah, l'idée, c'était que je reste un an et que je revienne au Maroc après, en fait. Parce que ma mère, elle s'était un petit peu endettée pour que je puisse faire mes études de dernière année en France. Et en fait, j'avais décidé de rester.
Et voilà, et c'était très compliqué, quoi. Parce que c'est pas... On peut pas rester comme ça. Enfin, soit on est étudiant, et on reste en tant qu'étudiant, soit il faut trouver une autre situation, et c'est pas évident de trouver cette situation-là, quoi. Donc, dans un premier temps, j'ai renouvelé mes études. Enfin, c'était pas prévu à la base, parce que j'en étais déjà quand même à Bac plus 5. Et... Donc j'ai fait un bac plus 6 et en fait après à un moment donné je me suis retrouvée dans une situation où j'avais pas de papier et donc j'avais rencontré un ami. Au début on était amis, après on est devenus amoureux et puis en fait on a décidé de se marier parce que c'était la seule possibilité pour moi de pouvoir rester. Voilà, parce qu'autrement, il fallait trouver un contrat de travail d'une entreprise qui veuille bien m'embaucher, mais il faudrait qu'elle prouve que je suis la seule apte à mener ce travail, en fait, qu'aucun Français ne peut le faire, et donc du coup que je suis la seule personne. Ça m'a donné le droit de rester sur le sol français, donc je crois qu'à l'époque, le titre de séjour, ça s'appelait « Vie privée et familiale », et donc ça donnait le droit de travailler aussi, surtout, et ce qui était important. Par contre, la nationalité française, là, on l'avait demandé un an après, je crois, et c'était encore sous Chirac, donc c'était assez facile, en fait, parce qu'il paraît qu'après, c'est devenu beaucoup plus compliqué une fois que Sarko est arrivé. Et donc, j'ai eu ce qu'on appelle la naturalisation française, je crois, un an après que j'ai eu les papiers pour... voilà. صعبت عليا نكتب اسمك بالدم في ضيا نرجع لك ديما 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 ومهما زرعولي الشوك في ثنيا مهما الايام حبت تهرب بيا نرجع لك ديما 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 ونسقي زرعك بدموع عيني مهما كنتيني انت عزيز عليا نحلف بيدين الفلاحة اللي ولدت في الشوك والتراب ولدت الخبز بجراحة قلبت هالدار الكذاب نحلف بليالي الكناسة خدام الأحزام والحطام ناد المنجم والخماسة لا لا على حبك منتو. Je crois que ma mère, ça fait quoi? Ça fait 18 ans maintenant que je suis en France. Je crois qu'elle est dû venir peut-être 3 fois maximum, quoi. Bon, alors c'était avec des visas touristes, court séjour, et donc à chaque fois c'était très compliqué, hein, quand même d'avoir le visa, parce que sur place il fallait s'adresser au consulat de France à Casablanca, au Maroc, il fallait réunir un certain nombre de papiers, prouver qu'on a de l'argent sur notre compte, montrer qu'on a des revenus réguliers, payer une taxe au consulat qui était non remboursable en cas de refus de visa, et payer aussi une assurance non remboursable aussi en cas de refus de visa. Donc plus je crois qu'il y avait des timbres fiscaux, je ne me souviens pas parce que ça fait longtemps que j'avais fait ces démarches pour elle, quoi. Donc c'était quand même assez coûteux comme démarche à chaque fois pour avoir un mois de droit de circulation en France, quoi. Donc elle était venue en tout et pour tout. Vu qu'elle en a eu marre au bout d'un moment de à chaque fois monter des dossiers hyper lourds et coûteux pour des petits séjours, on s'était dit tiens, on va essayer de lui demander un visa d'un an, long séjour. Comme ça, elle peut aller et venir comme elle veut. Et bah, quand j'ai fait cette demande de visa, j'ai eu une notification de refus et de visa sollicité en qualité d'ascendant de ressortissant français. Puisque moi, j'étais considérée comme un ressortissant français. Et ma mère étant mon ascendant. Donc, j'ai le papier, si tu veux que le lire, il n'y a pas de problème. Alors... Donc, liberté, égalité, fraternité, République française, consulat général de France à Casablanca, service des visas. Casablanca, le 25 novembre 2011.
Objet notification de refus de visa, sollicité en qualité d'ascendante de ressortissant français. Madame, donc ça c'est une lettre adressée à ma mère. Madame, vous avez sollicité un visa de long séjour en vue de rejoindre votre fille de nationalité française résidente en France. Me référant aux dispositions du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, j'ai le regret de vous informer que je refuse de vous délivrer un visa en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. En effet, les pièces présentées lors de votre demande ne permettent pas de déterminer que vous êtes prise en charge par votre fille. En effet, vous percevez deux pensions d'un montant de 3538 et 1534 dirhams, soit 350 et 150 euros, soit plus de deux fois le salaire minimum en vigueur au Maroc. De plus, vous êtes propriétaire de votre logement. Par ailleurs, vous ne répondez pas non plus aux conditions de délivrance d'une carte de séjour visiteur en qualité d'ascendant non à charge, car vous n'apportez pas la preuve que vous disposez de ressources personnelles suffisantes pour faire face seul aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de 3 mois. En conséquence, je refuse de vous délivrer un visa d'entrée et de long séjour visiteur, dont le seul objet serait de permettre à leur titulaire de déposer une demande de carte de séjour auprès de l'autorité préfectorale. C'est non, il n'y a pas de... En fait, soit elle a trop de fric parce qu'elle gagne 500 euros par mois et que ça fait deux fois plus que le salaire minimum au Maroc et qu'en plus elle est propriétaire de sa piole. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas à ma charge, donc elle n'a pas le droit de venir. Mais d'un autre côté, elle ne gagne pas assez pour pouvoir venir sans être à ma charge. Pour eux, c'était, si elle venait, c'était forcément parce qu'elle allait rester là. Elle veut rester là. Alors que le but, c'était qu'elle vienne juste pour me visiter, visiter ses petits-enfants. Enfin, tu vois, voilà, aller venir, quoi. Et depuis, elle n'est plus revenue. Hein, donc, ça veut dire que c'est depuis 2011. Elle n'est plus revenue en France, ma mère. Parce qu'elle elle a dit, merde, c'est bon, quoi, c'est vous qui venez. Moi, je n'aime plus. C'est des grosses inquiétudes parce que du coup, je ne sais pas, ma mère, elle avance dans l'âge. Puis en fait, il n'y a pas que ma mère parce qu'il y a ma tante dont je n'ai pas parlé. J'ai même pas osé un jour demander un visa pour elle parce qu'elle, pour le coup, ce n'est pas mon ascendante directe, c'est ma tante. Il se trouve qu'on a une relation affective très particulière parce que c'est ma nounou, celle qui m'a élevée. Et elle, pour le coup, elle a que dalle, quoi. Enfin... elle n'a aucune existence pour la sécurité sociale là-bas, elle n'a jamais eu de revenus, elle n'a aucun moyen de demander un visa en fait. Et juste, je ne sais pas du tout si un jour, par exemple, elle vieillit et qu'elles sont toutes seules là-bas, comment je vais faire en fait. Je ne sais pas comment en fait, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je ne peux même pas les faire venir avec moi ici, tu vois, pour les garder et m'occuper d'elles en fait. C'est une situation de merde, c'est hyper injuste quoi, enfin... Je veux dire, tu le vois dans le regard des gens là-bas, tu vois, quand ils voient arriver les gens passer tranquilles avec leurs papiers français. Et toi, tu galères, tu sais que pour passer, pour avoir le même droit juste de franchir cette ligne, tu dois... Il y en a, en fait, tu les vois, les gars, vraiment, qui regardent les bateaux partir et tout ça, avec un air... Enfin, il y a quelque chose de profondément injuste, surtout que l'Espagne et le Maroc, c'est vraiment, quand tu es au niveau Tanger et que tu vois vraiment l'autre terre en face, comme ça, à portée de main, il y a quelque chose de hyper violent, quoi. Dans se dire qu'il y en a qui peuvent y aller, qui peuvent revenir comme ils veulent, faire les allers-retours, et puis il y en a un moment, quoi, ils sont coincés dans par une espèce de frontière. Bon, voilà, il faut ouvrir les frontières, quoi. من صوبك عليا نكتب اسمك بالدم في ديا برجع لك ديما 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 ومهما زرعولي الشوك بثنية ومهما ليا حبت تهرب بيا برجع لك ديما 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 ونسقي زرعك بدموع عيني مهما كنتي انت عزيزة عليا لا 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 نرجع لك ديما 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 لا 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 لا
1991, éclatement de la Yougoslavie. Nouveau pays, nouvelles frontières. Monténégro, Serbie, Kosovo, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie.
1992, éclatement de la Tchécoslovaquie. République tchèque d'un côté, Slovaquie de l'autre.
Les empires qui se succèdent autour de l'histoire, au cours de l'histoire, deviennent, lorsqu'ils éclatent, de multiples pays, ou alors de nouvelles régions que d'autres empires s'accaparent lorsqu'ils éclatent. Ainsi, l'Empire romain, l'Empire ottoman, l'URSS, l'Empire byzantin.
Que dire des peuples sans frontières, partagés entre plusieurs pays, et qui attendent ardemment qu'on reconnaisse les frontières qu'ils ont définies ? Certaines communautés basques, kurdes, palestiniennes, irlandaises.
Et des peuples sans frontières qui n'en veulent pas, comme certaines communautés indigènes d'Amérique latine.
Mais c'est quoi ta souche ? T'es un pommier ou un poirier ?
Je sais faire le poirier.
Oui, mais toi, t'as des souches bretonnes.
Bras zéro français de souche.
T'es du cidre.
Est-ce que vous pouvez me raconter votre dernier passage de frontière ?
Alors, j'avais immigré dans le sud de la France et j'y étais relativement bien. Malheureusement, j'avais grand-peine à trouver du beurre salé. Et en fait, j'ai cherché, j'ai habité dans plusieurs villes, Agen, Albi, Toulouse, Bordeaux. Voilà, j'ai essayé un peu de tout. Voilà, j'ai testé plusieurs villes du sud, mais rien n'y fit. Impossible de trouver du beurre salé. Et donc j'ai vraiment déménagé 18 fois, j'ai cherché le meilleur endroit, voilà, les gens étaient ma foi fort agréables, mais le beurre salé, impossible à trouver. Donc je commençais à ressentir un état de manque, évidemment, j'avais la tremblotite qui commençait à s'installer, mais voilà, je commençais à perdre un peu mes ongles, mes cheveux devenaient gris. Donc j'ai été obligé de reprendre mon passeport breton et de repartir, chemin faisant vers la Bretagne. En bus 16, les bus bretons évidemment. Et donc je fais le trajet, de petit à petit je sens que la cornemuse se faisait entendre un peu au loin, je sentais que je rentrais vers l'Armorique, rêvée et la terre promise, des druides. Alors le passage au poste frontière se fait à Bouin, Bouin en Vendée. Donc là, évidemment, descente, les druides étaient en train d'un peu de fouiller les sacs, tout ça. Et finalement, il y a un élément qui... Puisque beaucoup vont critiquer, vont dire oui, la frontière n'est pas à Bouin, mais plutôt vers Châteaubriant, peut-être même vers Saint-Mars-la-Jaille, ou encore à Saint-Nicolas-de-Redon.
Il y a une certaine rivalité sur la frontière.
Mais oui, mais il se trouve que déjà, dès passer le pont de Bouin, on aperçoit les épiceries, les premières épiceries, évidemment locales, qui ne vendent d'ailleurs, dont les étals débordent de beurre salé, de cunyamande et d'autres spécialités locales. Et il y a un élément qui met tout le monde d'accord, c'est que juste après Bouin, on commence à entendre cette fameuse chanson que tout le monde... Tout le monde chante tant.
F
comme facho.
R comme raclure.
O comme ordure.
N
comme nazi.
T
comme tyran.
E comme ennemi.
X
comme xénophobe.
Bras zéro Frontex.
Alors c'est fini pour aujourd'hui sur cette première émission sur les frontières. Alors cette semaine, nous avons aussi réalisé un entretien avec le collectif du GECO, les Jeudis Communautaires, qui est un collectif de personnes migrantes et de personnes françaises qui travaillent à aider, soutenir, discuter avec notamment sur les situations des personnes LGBT migrantes ici à Toulouse. Et comme cet entretien, il était très très bien, mais assez long, on a décidé d'en faire une émission qui sera diffusée la semaine prochaine à 19h.
Bras zéro nos limites, quoi.
Ouais. Bah, merci d'avoir écouté.
Ouais.
Et franchement, à tous les fans de Bras zéro.
Et on peut dire peut-être que c'est le 8 avril, je crois, qu'on fera la thématique qui nous a été proposée par la gagnante du grand jeu concours de Brasero du mois de janvier.
Brasero rêve.
Brasero rêve, tout à fait. Ce sera le 8 avril.
Et ou braser beaucoup de rêves, quoi.
J'ai une petite dédicace à faire à des carnavaliers rencontrés à Marseille qui sont fans de Brasero, Jojo et Arthur. Merci pour l'écoute. Brasero international.
Et une spéciale dédicace à celle qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, Assoul, Violetta, Esther, un énorme bisou à ses parents et à elle-même.
Le premier Brasero. Bébé de Brasero.
Il y en aura d'autres, Brasero bébé.